Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits, ravi de vous retrouver cette semaine. Quelques annonces avant de commencer notre émission hebdomadaire. Le nouveau Conflit est en kiosque avec un dossier consacré à l'Espagne, une étude de l'Espagne dans ses tensions mémorielles, politiques et également son renouveau économique avec un rôle accru pour la ville de Madrid. Des articles nombreux comme à chaque fois nos différents chroniqueurs, un grand article sur la grande stratégie de la Suisse, qui, comme vous le verrez, est très loin d'être un pays neutre. Et puis, également, les différentes rubriques habituelles, les pages en jeu, avec notamment un article sur la Californie qui est en train de basculer, article d'Alexandre Mandel. Vous pouvez retrouver ce numéro en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com, site sur lequel vous pouvez également vous abonner ou vous réabonner. Conflit, vous le savez, ne vit que par ses abonnements et par ses ventes en kiosque. En vous abonnant à Conflit, vous permettez de nous soutenir, de vous proposer également ses contenus en libre accès. Et puis, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à abonner vos proches. C'est aussi un très bon cadeau de Noël, puisque Noël approche à grands pas. Et bien, ça peut être l'occasion ainsi d'offrir une lecture sur le monde pour l'année prochaine. Alors à propos de lecture sur le monde, cette semaine nous allons partir au Proche-Orient dans ce conflit qui s'est ouvert le 7 octobre dernier après l'attaque du Hamas contre Israël, une réponse militaire de l'armée israélienne. Nous allons au cours de cette émission essayer de décrypter la stratégie militaire d'Israël. Qu'est-ce que veut obtenir Israël? Quelle est la stratégie militaire qui est organisée à Gaza contre le Hamas? Quelles sont les forces qui sont employées? Nous allons ainsi essayer d'apporter un éclairage militaire à ce conflit qui a débuté il y a maintenant un mois. Pour en parler, mon invité cette semaine, c'est Gil Mihaeli. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro de Conflit. Vous êtes le directeur de la publication de Conflit, donc c'est un invité dans les murs. Également docteur en histoire. Je renvoie d'ailleurs nos lecteurs à deux articles parus il y a maintenant, je crois, 15 jours sur la guerre nouvelle qui s'est ouverte entre le Hamas et Israël, où vous expliquez quels sont les éléments du débat et quelle était la stratégie d'Israël. Là, nous sommes un mois, jour pour jour, au moment où l'émission est diffusée, puisque la première diffusion, c'est le 7 novembre, donc un mois, jour pour jour, après l'attaque. Alors justement, on voit que ça s'est fait en deux temps, cette réponse israélienne. D'abord des bombardements, et puis ensuite une intervention militaire avec l'armée de terre. Quel est l'objectif final de cette opération, si on le connaît d'ailleurs, s'il a été défini par les autorités israéliennes? Quel est l'objectif recherché?
Ce qui a été annoncé par le Premier ministre et les dirigeants de l'armée était de détruire les capacités de Hamas de mener la guerre et de gouverner. C'est-à-dire que si le Hamas, c'est un logiciel, donc une idéologie, des choses qui se passent dans l'entendement, dans la tête des gens, mais c'est aussi du matériel, ce sont des tunnels, des armes, ce sont des unités militaires, de l'entraînement, donc tout ce qu'on peut toucher par les armes. Donc l'idée, c'est de détruire le matériel et ne pas les faire comme ça a été fait depuis juin 2006, c'est-à-dire pas tondre le gazon, mais déraciner une par une chacun de plantes pour retrouver après la guerre en sorte de Gaza année zéro. Et là, les choses deviennent un petit peu plus floues, parce que la question qui se pose évidemment, puisqu'Israël n'a pas l'intention ni d'annexer, ni de rester comme force d'occupation dans la bande de Gaza, à qui donner les clés. Et c'est l'enjeu de la dimension plutôt, qui se passe dans les coulisses maintenant, parce que ce qu'on voit, ce sont les bombardements, ce sont les chars et les fantassins israéliens, mais on ne voit pas ce qui se passe dans les capitales, on ne voit pas ce qui se passe dans les salles de négociation. Et donc, en ce moment même, les Américains, les Saoudiens, les Égyptiens, les Qataris, les Turcs et quelques Occidentaux, la France par exemple, sont en train de trouver une sortie politique pour la dimension militaire de ce qu'on voit aujourd'hui en train de se dérouler à Gaza.
Oui, parce qu'une opération militaire est toujours au service d'une politique. C'est-à-dire que la finalité est politique et le militaire est un moyen.
Tout à fait. Donc, depuis, l'histoire un peu longue était que pendant les années 2000-2003, Israël était dans une situation avec la seconde intifada. Israël était dans une situation qui ressemble un petit peu à ce qui se passe avec la bande de Gaza, c'est-à-dire après 7 ans post-Oslo, où plus ou moins l'horizon politique était une solution de 12 États et Israël était engagé plus ou moins dans un processus de séparation avec les Palestiniens, avec comme objectif une paix entre les deux pays. En 2000, Israël se retrouve dans une situation complètement contraire, presque du jour au lendemain, un conflit d'une intensité sans précédent depuis le premier intifada, donc depuis 87-90. Et pour sortir de cette crise, Ariel Sharon, qui était premier ministre israélien entre 2001 et janvier-décembre 2005, a à la fois utilisé la force. On se souvient de l'opération à Jenin en 2002. On se souvient aussi du siège de QG de Arafat, Qatar à Ramallah. Et évidemment, tout le monde, et Jacques Chirac le premier, a demandé, OK, très bien, il faut lutter contre le terrorisme, pas de problème, mais quel horizon politique? Et donc l'horizon politique que Sharon a proposé à l'époque était une série de mesures unilatérales, parce que c'était difficile, après l'intifada, de négocier avec les Palestiniens. Il n'y avait pas, au sein de l'opinion publique israélienne, après les échecs de négociations de Camp David pendant l'été 2000, et après 3 ans d'intifada, il y avait 1100 morts israéliens en 3 ans, l'opinion publique n'était pas mûre pour une solution globale. Et donc, ce que proposait Sharon, et qui était largement élaboré avec la France, Sharon est venu ici, il était bien reçu par Chirac, qui pourtant n'a pas porté le général Sharon dans son cœur. Et donc, l'idée était de faire ce qui allait devenir après les retraits de la bande de Gaza, avec démantèlement de colonies, et démantèlement aussi des 3 colonies au nord de la Cisjordanie, ce qu'on a tendance à oublier, pour démontrer qu'il y a un lien et que le projet de Gaza était un projet pilote pour quelque chose de plus large et pas l'intégralité de l'opération. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui devait servir d'exemple pour convertir les opinions publiques. Et effectivement, pour le faire, d'abord, Sharon était obligé de bouleverser complètement les paysages politiques en Israël pour créer un nouveau parti, pour pouvoir créer une majorité. Et après, l'évocation des colonies de la bande de Gaza, on se souvient des images, c'était une opération très très compliquée et très très dure pour les Israéliens.
Parce que Sharon a fait évacuer des colonies juives installées en Cisjordanie. Il a manu militari, il a sorti les gens par la violence.
On a sorti les gens par force, manu militari, littéralement, parce que c'était l'armée qui était chargée de l'opération. Souvent, les gens n'ont même pas fait leur carton. Donc, c'était des soldats qui sont passés après dans leur appartement pour faire les cartons. C'était à ce point. Et donc, c'était très difficile du point de vue politique, mais ça a été fait. Et les dividendes politiques, 6 mois après, c'était une victoire de bloc Sharon, même si Sharon était déjà dans le coma. Son bloc a gagné haut la main les élections et le parti de Netanyahou a subi une défaite sans précédent. Ça, c'était début 2006.
Parce que Ariel Sharon a eu un AVC, donc il est mort longtemps après, mais pendant plusieurs années.
Oui, c'est-à-dire à partir de janvier 2006, il n'est plus aux commandes. Mm. C'est Olmert, Ehud Olmert, qui était son bras droit, qui était élu Premier ministre, et il était à la tête du bloc, du nouveau bloc de ce parti qui a été La République En Marche, qui a été créé par Sharon à partir de morceaux de différents partis autour d'un projet de compromis avec les Palestiniens pour sortir à la fois par la force et par la politique de la crise de deuxième intifada. Et donc on était déjà dans ces films et ces films étaient déjà à l'époque autour de la bande de Gaza. Donc Netanyahou, c'est une défaite historique. Le bloc de Sharon, c'est une victoire sans précédent. Il avait 33% des sièges au Parlement israélien, c'est inouï. Normalement, on raflait la mise avec 20-25%. Et donc, s'il y avait une adhésion, donc du point de vue israélien, il y avait un bloc politique, un électorat solide pour un processus de compromis avec les Palestiniens. Ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, le Hamas a gagné les élections palestinienne.
2006, janvier 2006,
que Hamas s'est mis tout de suite à préparer l'opération qui a abouti par l'enlèvement de soldats chalites. Ça, c'était juin 2006. Et puisque c'était une opération d'incursion par tunnel, c'était l'une des premières tunnels, donc ils ont mis quand même quelques mois. Donc, on estime que peut-être à la fin 2005 ou début 2006, ils se sont mis déjà à creuser le tunnel et à préparer cette opération. Donc tout de suite, le Hamas a décidé de ne pas donner une chance à ce projet. Et avec l'opération de Hamas en 2006, le Hezbollah, on croit être aujourd'hui, a décidé de rejoindre le Hamas. Et ils ont fait une opération, ils ont kidnappé 12 soldats israéliens, après on s'est avéré qu'ils étaient déjà morts. Israël a réagi dans le nord. On a eu la guerre de l'été 2006 et le gouvernement israélien est sorti affaibli. C'est-à-dire entre mi-juin et mi-août 2006, les Hamas et les Hezbollah sont arrivés à torpiller complètement le projet d'Ariel Sharon, de donner un nouvel élan. Et c'est à partir de ce moment-là, ce qu'on peut appeler le parti, c'est pas le parti de la paix, mais le parti de compromis avec les Palestiniens et le parti de ceux qui pensaient qu'on pouvait faire quelque chose avec l'autorité palestinienne, a perdu sa crédibilité, ce qui a amené à une victoire de Netanyahou en 2009. Il a gagné les élections 3 ans après sa défaite. Et la défaite était liée au fait que les gens croyaient dans le projet de mentalement de colonie à Gaza, qu'il a gagné quand les gens ont compris en Israël que ça ne sert à rien, que même si on rend le territoire à l'autorité palestinienne, ils ne sont pas capables de le tenir face au Hamas qui transforme chaque territoire évacué par Israël en plateforme des guerres assez sophistiquées contre Israël. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, euh, les capacités extraordinaires que le Hamas a su développer en absence de troupes israéliennes sur le sol. Parce que par les airs, il y a une limite à ce qu'on peut savoir, à ce qu'on peut faire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. On a les 7 octobre pour être comparé, de point de vue géopolitique, je ne parle pas de la charge émotionnelle, etc., etc., à seconde intifada, et les mêmes questions, ok, vous allez les écraser, et après, qu'est-ce qu'on on va leur proposer? Donc nous sommes maintenant dans la situation où Israël était en 2002-2003, où il fallait d'abord écraser les capacités militaires des Palestiniens terroristes, et en même temps, essayer d'inventer quelque chose. Et aujourd'hui, il est difficile de s'imaginer le contour d'une telle solution politique, comme il était difficile en 2002 à 2003 d'imaginer cette opération de sortie unilatérale des Gaza, plus 3 colonies au nord de la Cisjordanie, etc. Donc c'était des choses qui étaient négociées, improvisées, derrière les chars, pas devant les chars. C'était long. On se souvient que en 2004, il y a 19 ans, je pense que c'était en octobre, novembre, Yasser Arafat est décédé, ce qui a ouvert la porte, parce que ce qui était impossible avec lui était possible avec son successeur Mahmoud Abbas. Et donc, on voit que les choses sont un petit peu plus molles qu'on aurait bien aimé avoir. Donc, il n'y a pas un plan aussi détaillé que le plan militaire pour la dimension politique. Et probablement, ça va ressembler à quelque chose comme ce qu'on a vécu entre 2002 et 2005, c'est-à-dire une action militaire dont la cohérence et s'inscrit dans la durée, et qui change les conditions pour permettre une dimension politique difficile à envisager au début de la dimension militaire de l'action.
Est-ce qu'on sait pourquoi le Hamas a attaqué le 7 octobre? Est-ce qu'il se doutait bien qu'il y aurait une réaction israélienne? Est-ce que c'était justement pour ça, pour provoquer une réaction israélienne et peut-être prendre l'opinion mondiale à témoin pour qu'avec les images de destruction, ça donne une image négative d'Israël, ou est-ce qu'ils ont d'autres projets politiques? Est-ce que c'était pour empêcher la paix de s'installer ou provoquer une nouvelle guerre?
C'est difficile de donner une réponse simple à cette question. D'abord, parce que je ne suis pas sûr que quand le Hamas a donné le feu vert pour l'opération de 7 octobre, ils avaient en tête ce qui allait se passer. Je ne suis pas sûr que le planificateur de Hamas envisageait à quel point ça allait réussir. Malgré les faits qu'on a trouvé en Israël, les Israéliens ont trouvé sur les corps et dans leur sac, leur bagage, trouver de plans, des ordres, etc., qui laissent croire qu'ils s'attendaient à rester longtemps et aller plus loin. Ça ne vaut pas dire que le planificateur tablait sur une réussite à 100% de leur opération. Donc ça c'est une première remarque. Juste entre parenthèses, c'est comme si quelqu'un, par exemple, qui en juin ou juillet 1914 était pour la guerre, c'est presque certain qu'il n'était pas pour la Première Guerre mondiale. Il était pour une guerre, mais ce qu'il envisageait, ce n'est pas ce qui allait se passer. Donc, dire que tel en tel était pour la guerre, ça ne veut pas dire qu'il était pour la Première Guerre mondiale comme on la connaît. Donc, je vais faire la parenthèse. Donc, je pense que le Hamas était pour une opération. Je ne suis pas sûr qu'ils attendaient un tel succès et donc, évidemment, une telle réponse. Pour les timings, Yahya Sinwar, qui est le patron de Hamas à Gaza, est un homme de contre-espionnage. C'est un homme dont le job était toujours de repérer les collabos, de travailler sur la sûreté de l'information, d'empêcher les services israéliens de pénétrer le Hamas et la branche armée. Quand il était en prison, c'était lui qui était supposé dévoiler, démasquer les prisonniers qui renseignaient en Israël les services de renseignement de prison, et l'un des branches les plus importantes de services de renseignement, parce que, comme on le sait en France aussi, ce qui se passe dans les prisons est très très important. Ce sont des écoles, ce sont des endroits où on planifie les choses, on crée des réseaux, donc si on fait bien le travail de renseignement dans les prisons, c'est précieux. Et donc, c'était lui qui était chargé de lutter contre le service de renseignement des prisons en Israël. Et on l'appelle même Monsieur 12, parce que sa réputation, c'est d'avoir tué 12 personnes soupçonnées d'être des collaborateurs d'Israël de ses propres mains, plus d'autres personnes dont il a donné l'ordre de tuer, mais il a tué 12 personnes. Et donc, c'est lui probablement qui est responsable du succès de l'opération en formation, donc du fait qu'Israël n'a pas pu percer le secret. Et probablement, ça veut dire que, en tant que quelqu'un qui est très sensible à ces dimensions, une fois les capacités opérationnelles étaient mûres, c'est-à-dire ceux qui devaient diriger l'opération, on dit « Ok, on est prêt, c'est quand vous voulez », lui, il voulait que ça se fasse le plus tôt possible, parce que chaque jour qui passe, c'est encore 24 heures pour le service israélien de percer le secret et donc d'anéantir ces efforts. Et effectivement, les renseignements israéliens étaient probablement à 12 heures de percer le secret. On a trouvé, c'est-à-dire ça a été publié en Israël, que le chef de renseignement intérieur, donc Shabak, celui qui est chargé du dossier palestinien, a déjà rédigé une alerte qu'il allait diffuser samedi, et c'était trop tard, en quelques heures. Donc ils commençaient, en Israël, ils ont commencé déjà à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc, à quelques heures près, les services israéliens auraient pu percer le secret et préparer une embuscade pour les forces de Hamas et transformer ces victoires tactiques en débâcle. Donc je pense que c'est ces genres de considérations qui ont pesé dans la décision de lancer l'opération le 7. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose de tactique. Maintenant, si on monte vers l'étage stratégique, le problème du Hamas, et c'était le même problème pour l'OLP et le Fatah, mais encore plus grave. Parce que si le Hamas jouait le jeu, c'est-à-dire continuait à signer des trêves avec Israël et devenir de plus en plus le gouvernement de Gaza et de moins en moins une organisation radicale dont l'objectif est de détruire l'État d'Israël par les moyens de la lutte armée, il perd son âme, il perd sa singularité, et les gens peuvent se demander, mais quelle est la différence entre vous et l'autorité palestinienne? Eux aussi, dans les années 60-70, il était pour la lutte armée, pour remplacer Israël par un État palestinien, de la rivière jusqu'à la mer. Et donc, quelle est la différence entre vous? Est-ce que vous êtes un sort de Fatah OLP bis? Est-ce qu'après 30 ans, Hamas a été créé en 87, est-ce qu'après 30-35 ans, vous êtes en train de vivre un sort de embourgeoisement et pour devenir encore un deuxième gouvernement palestinien? Et donc, je pense qu'eux, ils ont tranché ces débats en décidant de renverser la table, de dire non, on ne va pas suivre l'évolution de l'autorité palestinienne, donc OLP Fatah. Nous sommes toujours engagés pour la destruction de l'État d'Israël par les moyens de la lutte armée et avec comme idéologie l'islam politique de l'école de frères musulmans.
Alors, si on revient à la stratégie militaire mise en place par Israël dans sa réponse, on est en combat en zone urbaine. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile d'un point de vue militaire parce qu'on a une guerre en plusieurs dimensions. C'est très facile de se cacher dans les bâtiments qui sont détruits, donc pour les gens du Hamas, donc d'attaquer l'armée israélienne. Et puis, il y a le problème des tunnels également qui sont des lieux où ils peuvent surgir, se cacher, avoir leurs réserves. Donc il y a un risque militaire d'avoir beaucoup de dégâts, de morts, d'attrition côté israélien. Et on voit que ça a été pris avec assez de prudence. D'abord beaucoup de bombardements, puis quelques envois en mission, et puis ensuite une intervention plus directe début novembre. Quelle est là la stratégie qui a été mise en place pour empêcher justement de se perdre dans ce gala bombardé comme d'autres armées ont pu se perdre dans les villes ou les combats urbains. On pense à Stalingrad, par exemple, qui est un petit peu le tombeau de l'armée allemande à ce niveau-là.
Ces contraintes, il faut enfin rajouter deux. D'abord, il y a plusieurs dizaines de milliers de civils palestiniens, donc des gens non impliqués. Et donc l'armée a le devoir de faire des efforts pour les épargner. C'est-à-dire, on ne peut pas y aller. Si on a une cible, on ne peut pas juste le détruire sans prendre en considération la possibilité qu'il y ait des civils et prendre des précautions. Et puis, évidemment, il y a la question des otages. Qui se trouve probablement dans les tunnels, mais peut-être aussi ailleurs. Et donc, il faut toujours prendre en compte que autour de votre cible, il y a aussi des personnes qu'il faut sauver. Donc, on a les deux dimensions, au-dessus et en dessous de sol. La population civile, il en reste toujours. Il en reste toujours des gens derrière, des gens qui décident de ne pas partir, des malades, de gens âgés qui ne veulent plus partir. Si une mère âgée reste, parfois ses enfants, certains de ses enfants décident de rester avec elle. Donc c'est normal, c'est comme ça, et l'armée doit prendre tout cela en compte. Et donc c'est pour cela que globalement, la tactique, stratégie, on peut le dire pour les côtés techniques de la guerre à Gaza, c'est de prendre son temps parce que Israël n'a pas de problème logistique et tandis que le Hamas se trouve déjà depuis un mois sous-sol. Et que même si ils ont des dépôts bien fournis, après un mois, ça commence à être difficile à tenir. Il y a des systèmes d'aération. Et pour faire fonctionner le système d'aération, il faut de l'électricité. Et donc, pour ce qui concerne l'état-major et les installations stratégiques, ils sont branchés sur l'électricité de l'hôpital Shifa, parce qu'ils sont juste en dessous. Et donc, aussi longtemps que l'hôpital est ravitaillé en essence, les cerveaux de Hamas et ses plus hauts dirigeants auront de l'électricité, mais ce n'est pas le cas pour les cercles concentriques autour de ces centres névralgiques qui est sous l'hôpital Shifa. Et eux, ils souffrent. Ils perdent des dépôts de nourriture, ils perdent de groupes électrogènes, il y a des problèmes d'eau, ils commencent à avoir des problèmes de nourriture, certains tunnels sont bloqués ou piégés par Israël. Si ils pouvaient communiquer par fil, parce que les tunnels sont câblés. Les bombardements et l'avance de l'armée israélienne les obligent de passer aux radios, avec tout ce que ça veut dire.
Donc on peut écouter.
On peut écouter et aussi il faut sortir un petit peu parce que c'est difficile, quand on est à 20 mètres sous sol, c'est difficile de parler en radio. Et donc ça oblige, c'est un petit peu, les tunnels c'est un petit peu comme un sous-marin. Quand un sous-marin reste clandestin, C'est un système d'armement qui peut observer, et qui peut même lancer des munitions. Mais une fois il est pris en chasse par la marine, et les sous-marins sont dans une situation compliquée, très très compliquée. Et les risques sont énormes parce qu'on ne peut pas manœuvrer, on ne peut pas sortir, on ne peut pas se rendre. C'est-à-dire c'est difficile. Et donc, l'idée, c'est petit à petit de transformer la forteresse souterraine Hamas en un énorme piège où il est de plus en plus difficile de bouger parce que de plus en plus de branchages, de tunnels, de services sont bloqués ou inondés. L'air est de moins en moins respirable. Il est de plus en plus difficile de se connecter avec les téléphones de fil. Donc, pour avoir des ordres, de l'information, il faut essayer de se rapprocher de sol, de niveau de sol, pour parler avec un radio. Les groupes électrogènes marchent de moins en moins et il y a des blessés qu'il faut traiter. Donc l'idée, c'est de mettre la pression et de le mettre dans une sorte de cocotte minute et laisser le feu, laisser les mijoter dans le temps. Donc pour Israël, la ressource la plus importante, c'est le temps. Ça peut prendre 2 semaines. Mais si on veut épargner des vies des civils, et si on veut aussi épargner les otages, il faut mettre une pression qui s'exerce d'une manière continue dans le temps.
C'est pour ça, par exemple, qu'Israël a veillé à ce que la bande de Gaza ne soit pas ravitaillée en carburant, donc pour éviter cet approvisionnement des tunnels. Et puis il y a la question du cessez-le-feu qui est invoquée par certains, enfin qui demande un cessez-le-feu, mais c'est sûr que d'un point de vue israélien, un cessez-le-feu, ça veut dire possibilité pour le Hamas de se ravitailler de nouveau, de se réorganiser. Donc c'est repartir un peu à zéro.
Oui, Israël a besoin de temps politique, c'est-à-dire elle a besoin de temps avant que les États-Unis sifflent la fin de la récré. Et à un moment donné, les prix politiques pour les États-Unis vont être tels qu'ils vont demander fermement à Israël de tout arrêter. Et à ce moment-là, les choix israéliens vont être difficiles. Israël peut toujours dire non. Mais c'est un choix difficile. Et donc, pour gagner ce temps, pour que les États-Unis puissent dire on pense aussi aux Palestiniens, il y a une négociation sur des pauses, ce qu'on appelle des pauses humanitaires. Il y a un consensus important aux États-Unis parce que même Bernie Sanders, qui est l'aile gauche du Parti démocrate, ce qui est l'aile problématique pour Biden. L'analyse politique, c'est que le soutien américain pour Israël risque d'écouter à Biden les voix des jeunes et les voix de la gauche du Parti démocrate. Donc maintenant, quand même Bernie Sanders dit qu'on ne peut pas avoir un cessez-le-feu avec le Hamas, mais il faut trouver des solutions pour la population, ça veut dire qu'il y a un consensus assez large. Et donc la question maintenant, comment va être le marchandage de ces pauses? Israël exige des otages. C'est-à-dire, si le Hamas souhaite respirer et avoir de diesel, de carburant, il faut payer un otage. Les autres, c'est-à-dire les Palestiniens je pense aussi les Égyptiens et les autres, mettre la pression sur Israël pour faire des pauses de manière unilatérale. Et pour le moment, c'est le bras de fer. Israël exige que le Hamas paye en monnaie otage. Ça peut être des choses comme des preuves de vie. Il y a parmi les otages, il y a à peu près 240 otages. Il y a une quarantaine de Thaïlandais qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Il y a quelques dizaines d'enfants, dont quelques bébés. Il y a des personnes âgées qui ont plus de 75 ans. Donc le Hamas a des cartes qu'il peut mettre sur la table. Et si, si le Hamas reste après un tel accord avec une centaine d'otages dont la moitié sont de militaires israéliens, ça n'affaiblit pas beaucoup sa position. Et en plus, je pense que ces otages deviennent de plus en plus encombrants dans le sous-sol de Gaza, quand les gens de Hamas eux-mêmes ont de plus en plus de problèmes à se nourrir, à boire, à respirer, avoir encore une centaine, surtout des bébés. Qu'est-ce qu'on fait avec des bébés? Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes âgées qui ont de la diabète, qui ont des problèmes de cancer, qui ont besoin de médicaments, etc. C'est très compliqué à gérer. Et donc, le Hamas, Israël met la pression pour qu'au moins, il commence à libérer ces otages-là pour réduire le problème. Et pour le moment, on n'a pas d'informations vérifiables et fiables concernant l'état de ces négociations.
Sur les morts étrangers, ce sont les chiffres au 6 novembre, parce que ça peut évidemment évoluer, mais les nationalités étrangères les plus touchées, la première c'est la France, 40 morts, et la deuxième la Thaïlande, 34 morts. Après il y a des Anglais, des Canadiens, quelques Américains, quelques Russes. Mais c'est les deux nationalités les plus touchées. Effectivement, beaucoup de Thaïlandais qui étaient là pour travailler dans les champs, travailleurs agricoles, et qui ont été soit tués, soit pris en otage. Dernière question, Guil Mirehelyi. On voit qu'il y a eu une prise en tenaille du nord de la bande de Gaza, de la ville de Gaza elle-même. La bande de Gaza est coupée en deux aujourd'hui, donc les combats se concentrent vers le nord. C'est là qu'on a le QG du Hamas.
Oui, alors, en fait, l'information donnée par Israël, c'est que l'essentiel des infrastructures, surtout de contrôle et de commandement, et aussi les chefs, parce qu'Israël souhaite aussi liquider les chefs. Partie de la victoire, c'est de tuer ou capturer les quelques centaines membres de Hamas qui sont allés du niveau des chefs de bataillon et jusqu'à chef de gouvernement. Tout ce monde-là, et l'idée, selon les renseignements israéliens, une grande partie de ces personnes se retrouvent sous l'hôpital Shifa ou bien dans les différents niveaux de système de défense autour. C'est comme un artichaut. Donc c'est les cœurs et il y a des feuilles qui les protègent. Et donc la plupart sont là, dans cet endroit-là. Et les forces israéliennes sont petit à petit en train d'encercler et mettre la pression, pousser les gens vers les centres, couper les tunnels et faire mijoter les autres.
Merci beaucoup, Guil Mirehelyi, d'avoir apporté ces éclairages sur cette guerre en cours depuis un mois, 7 octobre, 7 novembre. Nous allons évidemment continuer à suivre le déroulement de ces opérations de près, les évolutions à la fois militaires et politiques entre le Hamas et Israël, et évidemment les implications aussi nombreuses à la fois pour le Proche-Orient et pour la France. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit l'ensemble de nos émissions. Dans la rubrique podcast, il y a deux émissions par semaine, donc vous avez des archives qui sont extrêmement riches sur des thèmes très variés, des thèmes stratégiques, des thèmes géographiques, des thèmes plus littéraires et philosophiques également. Et puis, dans notre rubrique en ligne, vous pouvez retrouver nos derniers numéros ainsi que vous abonner, puisque Conflit vit par ses abonnements et ses ventes en kiosque. Et donc, en vous abonnant, vous permettez à Conflit de vous offrir ce contenu en libre accès. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.